Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter VOA Afrique et surtout d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Pour vous le présenter, je suis Rosine Mounezero et Mamadou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mamadou.
Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous nous intéressons à la tuberculose, une maladie qui tue encore près de 2 millions de personnes chaque année et qui représente le premier facteur de mortalité chez les personnes séropositives. Docteur Moutaza Lusungu Baba.
Depuis des années, on a remarqué un taux de prévalence élevé chez des gens qui souffraient du VIH. On a trouvé que ces gens-là, à un moment donné, ils présentent la tuberculose. 80% des cas sont les poumons qui sont atteints. Là, on parle de la tuberculose pulmonaire.
Comment contracte-t-on la maladie? Comment réagit l'organisme? Nous écouterons le témoignage d'un malade.
J'ai attrapé une toux qui avait duré 14 à 15 jours. J'ai augmenté un peu de température et finalement je me suis dit non, je dois aller voir le médecin traitant pour qu'il puisse examiner mon crachat.
Et nous irons aussi dans un centre d'encadrement de jeunes tuberculeux en RDC. Mais avant de continuer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
L'actualité santé, nous accueillons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Rosine.
Commençons par la République démocratique du Congo où on annonce que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola se stabilise dans le nord-ouest de ce pays.
C'est effectivement ce qu'ont indiqué mercredi les autorités qui s'inquiètent d'une flambée de choléra qui a fait 103 morts dans le centre du pays. Aucun cas confirmé de fièvre Ebola n'a été enregistré depuis le 6 juin dans la province de l'Équateur, à 600 km au nord de Kinshasa, d'après le ministre de santé. Au 26 juin, l'épidémie a tué 29 personnes selon le ministère. Au total, 56 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 38 confirmés, 15 probables et 3 suspects selon un décompte du ministère de la santé qui avait déclaré l'épidémie le 8 mai. Au total, Rosine, 24 personnes ont été guéries de la maladie depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola.
En revanche, Firmin, la RDC fait face à une épidémie de choléra dans la province du Kasaï oriental, dans le centre du pays.
Oui, 750 cas de choléra ont été signalés dans le Kasaï oriental avec 103 décès, d'après Alphonse Ngoy Kassandi, gouverneur de la province. L'épidémie déclenchée en mars s'était estompée avant de reprendre en juin, a expliqué M. Ngoy Kassandi. L'absence d'eau potable serait à l'origine de l'épidémie, selon lui. Outre la vaccination, il faut résoudre la question de dessertes en eau dans le Kasaï oriental. Toujours selon M. Ngoy Kassandi, il faudra à court terme désinfecter l'eau avec le chlore et procéder à la distribution pour les populations. Il craint des dégâts plus importants si rien n'est fait. En 2017, par ailleurs, la RDC a été confrontée à une épidémie de choléra dans la majorité des provinces. La capitale Kinshasa avait fait face à plusieurs cas de choléra en janvier. Rappelons que le choléra se transmet par une bactérie qui s'attrape par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée selon l'OMS. Il se manifeste par des diarrhées et une forte déshydratation pouvant mener à une mort rapide.
Restons en RDC où les médecins demandent au gouvernement de traduire ses engagements en actes.
Rosine, le syndicat national des médecins, SINAMED, demande au gouvernement de traduire en acte les engagements qu'il avait pris en signant le 27 avril dernier un accord avec les médecins pour mettre fin à leur grève. Dans cet accord, le gouvernement s'était engagé notamment à revoir le barème salarial des médecins et à œuvrer pour que les noms d'environ 100 médecins figurent désormais sur les listings de paye des médecins de la RDC. Le président national de la commission de contrôle et vérification du SINAMED, le docteur Fabien Nzoko, accuse le gouvernement de n'avoir honoré qu'un seul des engagements.
Et jusqu'à ce jour, les médecins n'ont toujours pas touché leur complément salarial des mois de mai et juin.
Tout à fait, Rosine. Pourtant consigné dans l'avenant qu'ils avaient signé avec le gouvernement, relève le syndicaliste qui dit craindre pour la situation des quelques 100 médecins affiliés au ministère de la Santé et dont la mécanisation devrait en principe intervenir en juillet prochain.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Parlons à présent de la fièvre jaune, protéger près d'1 milliard de personnes en Afrique d'ici 2026.
En effet, à l'horizon 2026, près d'un milliard de personnes seront vaccinées contre la fièvre jaune dans 27 pays africains à haut risque avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé OMS, de Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, de l'UNICEF et de plus de 50 partenaires de santé. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à éliminer la fièvre jaune en Afrique, lancée par le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, le professeur Isaac Folorunsọ Adewole, ministre nigérian de la Santé, et d'autres partenaires. Le monde est en proie à un risque croissant de flambée de fièvre jaune et l'Afrique est particulièrement vulnérable, a déclaré le docteur Tedros.
Et l'UNICEF promet de mettre à disposition les vaccins.
L'agence onusienne, en effet, mettra des vaccins à disposition, plaidera en faveur d'un engagement politique plus ferme et contribuera à la protection des enfants, tant par les vaccinations systématiques que lors des flambées épidémiques. Aujourd'hui, la menace de fièvre jaune est plus imminente à jamais, notamment pour des milliers d'enfants africains, a déclaré Stéphane Peterson, responsable santé à l'UNICEF. Comme près de la moitié des personnes à vacciner sont des enfants de moins de 15 ans, cette campagne est décisive pour sauver des vies et il faudra du temps avant de mettre un terme à la maladie.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine nous parlons de la tuberculose. Cette maladie est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Et plus de la moitié des malades se trouvent en Afrique. La tuberculose et le VIH forment une association meurtrière, chacun accélérant l'évolution de l'autre. En 2015, selon les chiffres les plus récents de l'OMS, 35% des décès des séropositifs ont été dus à la tuberculose. Qu'est-ce qui cause cette maladie? Pourquoi est-elle fréquente chez les séropositifs? Comment l'éviter? Nous avons posé ces questions et bien d'autres au docteur Moutaza Lusungu Baba. Il est médecin généraliste et praticien à la clinique imagerie du Grand Lac de Beni en République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi.
Je suis Moutaza Lusungu Baba. Je suis médecin généraliste au sein de l'imagerie du Grand Lac. Je suis le médecin directeur.
Voilà. D'abord, parlez-nous de la tuberculose. C'est quoi cette maladie? Quelles en sont les causes et les manifestations?
La définition de la tuberculose en termes simples, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie qu'on appelle les Mycobacterium tuberculosis ou les bacilles des Koch. C'est ça la tuberculose. Alors, quelles en sont les causes? Vous voyez déjà, l'étiologie est là. Cette bactérie, qui en a plusieurs types en fait, nous avons trois espèces chez nous ici. Nous avons les Mycobacterium tuberculosis qui entraîne la tuberculose. Nous avons aussi les Mycobacterium bovis qu'on peut choper dans les laits. Et on a aussi les Mycobacterium africanis qu'on trouve souvent en Afrique de l'Ouest.
Quel lien y a-t-il entre le VIH et la tuberculose? Et pourquoi la tuberculose est-elle une maladie courante chez les séropositifs?
Cette question, elle est importante. Depuis des années, on a remarqué un taux de prévalence élevé, n'est-ce pas? C'est des gens qui souffraient du VIH et on a trouvé que ces gens-là, à un moment donné, ils présentent la tuberculose. Ici, nous parlons précisément de la tuberculose pulmonaire. Parce qu'il faut quand même savoir que les mycobactéries peuvent attaquer beaucoup d'organes, mais 80% des cas, n'est-ce pas, sont les poumons qui sont atteints. Là, on parle de la tuberculose pulmonaire. La question maintenant, c'est quoi cette corrélation entre les VIH et la tuberculose pulmonaire? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la tuberculose, n'est-ce pas, c'est une maladie qui attaque des terrains défaillants sur les plans immunitaires, n'est-ce pas? Lorsque nous avons un terrain dont l'immunité a diminué, par exemple, les gens qui sont mal nourris, vous voyez, il y a aussi la promiscuité des milliers pauvres où les gens sont entassés. Mais il faut comprendre aussi que le VIH, c'est un virus qui vient détruire l'immunité. Et en détruisant l'immunité, n'est-ce pas, il prépare un terrain pour que ces personnes-là développent beaucoup plus facilement la tuberculose par rapport à ces personnes dont l'immunité est encore bien intacte. Voilà ce que je vais dire là-dessus.
Voilà. Et quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on vit dans l'entourage d'un tuberculé et comment éviter cette maladie?
Je crois que c'est déjà très important parce que dans l'évolution, n'est-ce pas, de la maladie, dans les 5 ans qui arrivent, on a 50% des gens qui vont mourir, n'est-ce pas? Les 25% vont continuer à transmettre la maladie. Il faut comprendre que cette maladie-là, elle se transmet par les gouttelettes de fluide qu'on émet, lorsqu'on crie, lorsqu'on chante, lorsqu'on tousse, n'est-ce pas? Et c'est par cette voie-là que ces gouttelettes vont entrer dans la circulation. Donc, la première chose, c'est avant tout
aérer, par exemple, les locaux, n'est-ce pas? Des personnes qui souffrent de la tuberculose pulmonaire et doivent vivre dans un endroit qui est bien aéré. Ça, c'est le premier élément. Et un deuxième élément, il faudra quand même, n'est-ce pas, qu'il évite d'utiliser, et ça on le fait encore chez nous, les mêmes gobelets, même plats que les gens qui sont encore sains, pour éviter, n'est-ce pas, que ces crachats-là puissent les contaminer, parce qu'on sait jamais. Voilà, il y a toutes ces mesures-là, et autre chose, la personne doit suivre les soins.
Oui, docteur, et comment soigne-t-on la tuberculose? Y a-t-il un traitement particulier pour ceux qui sont à la fois tuberculés et séropositifs?
Un traitement particulier, je voudrais pas dire cela. Mais je voudrais dire un traitement combiné par rapport à leur taux de CD4. Ce que je veux dire, faut comprendre chez nous, ici, en République démocratique du Congo, et plus particulièrement au Nord Kivu, dans la ville de Beni, n'est-ce pas? Nous sommes un peu je voudrais dire, dans la limite, vous voyez? Il y a l'Ouganda qui est à côté de nous, le Rwanda est à côté de nous, beaucoup de pays comme ça. Et ces gens, lorsqu'ils traversent, vous allez voir que les taux de prévalence du VIH est élevé, parce que nous sommes dans ces zones frontalières. Alors, comment est-ce qu'on procède? Chez nous, le gouvernement congolais a déjà mis au point un programme pour lutter contre la tuberculose. On appelle ça l'hépatite. L'hépatite, c'est-à-dire les programmes anti-tuberculés intégrés aux soins de santé primaire. Je voulais souligner aussi que grâce à l'appui des bailleurs, c'est un traitement qui est gratuit. Mais comme c'est un programme, les patients ne viennent pas aujourd'hui du jour au lendemain et commencent ces traitements. Il y a des procédures à suivre. Notamment, il faut d'abord catégoriser les patients. Donc, selon les temps, selon les clichés, selon les signes cliniques qu'il va présenter, nous allons le mettre soit dans la première catégorie, soit dans la deuxième catégorie, si c'est un cas de rechute ou d'abandon, soit dans la troisième catégorie, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des lésions moins intenses, n'est-ce pas, ou alors, lorsqu'il y a des multi-résistances, on le met dans la quatrième catégorie. Les traitements, ils varient des régimes de 6 à 8 mois, n'est-ce pas, pour la première et la troisième catégorie, et les régimes est de 6 mois. Pour la deuxième catégorie, le régime est de 8 mois, n'est-ce pas, avec les contrôles, bien entendu. Pour la première et la troisième catégorie, on fait un contrôle au deuxième mois, on fait un contrôle au quatrième mois, on fait un contrôle au sixième mois pour déclarer si la personne est guérie, si la personne a rechuté. On constate qu'il a fini seulement les traitements, vous comprenez? Et à côté de ça, maintenant, on va faire une association. L'association, c'est, nous avons les tuberculostatiques, c'est-à-dire les produits qui arrêtent la progression des mycobactériums dans les sangs, où on va prendre les bactéricides, c'est-à-dire les produits qui éliminent carrément cela. Et on fait cette association-là, il y en a beaucoup. Je vais donner une liste des médicaments qu'on donne chez nous. On donne la rifampicine, on donne l'isoniazide, on donne l'étambitol, on donne la streptomycine. Vous voyez, il y a ces médicaments-là qu'on donne selon les catégories. Et il faut comprendre maintenant, c'est à la fin qu'on déclare si une personne est guérie réellement ou pas. Maintenant, parlons par rapport au VIH. Nous savons que, en fonction du taux du CD4, n'est-ce pas, et la concentration des virions, on donne les ARV ou les antirétroviraux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ici. Le but, l'objectif des antirétroviraux, c'est rendre la charge virale presque indétectable, mais aussi lutter contre les maladies opportunistes, actuelles ou à venir. Entre autres, la tuberculose. Mais il faut comprendre maintenant, une personne atteint des VIH, n'est-ce pas, et qui présente la tuberculose, lorsqu'on introduit les soins, il y a un problème qui se pose souvent, on remarque chez nous ici, au Nord Kivu, le syndrome de reconstitution immunitaire. C'est-à-dire, la personne déjà, elle n'est pas en bonne santé, et ça se fait qu'à un moment donné, cette personne-là réagit aux médicaments, et sa situation va s'empirer. Donc, ce que nous faisons, en réalité, c'est donner d'abord les soins pendant 1 ou 2 mois, n'est-ce pas, pour que la personne soit stable, et que son corps puisse s'habituer, n'est-ce pas, aux entités, aux tuberculostatiques. Après, maintenant, nous allons réintroduire progressivement les ARV et il va continuer selon la tolérance.
Alors, avez-vous noté des cas de résistance aux médicaments antituberculeux chez certains parents? Si oui, en quoi cela est dû et comment s'y prendre?
De plus en plus de cas, parce que déjà, il y a un constat, nous avons remarqué que la plupart des personnes atteintes de la tuberculose pulmonaire aujourd'hui sont des jeunes de moins de 35 ans. Pour des raisons que je viens de vous dire, ils sont toujours chauffeurs, ils sont toujours commerçants, très sortir, sont toujours militaires, ils sont jamais à la maison et lorsqu'ils vont à l'étranger, qu'ils reviennent, ils sont séropositifs. Mais comme nous vivons dans la promiscuité, dans des milieux pauvres avec les guerres à répétition, ça fait qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et ça favorise la maladie. Maintenant, qu'est-ce qui expliquerait cela? Je voudrais dire principalement 2 choses. La première, c'est les abandons. Vous comprenez? Lorsqu'on a, vous comprenez, les traitements, quand même, c'est 6 mois. 6 mois, c'est pas facile. Et quand la personne a commencé les traitements, les signes commencent à disparaître, n'est-ce pas? La toux diminue, la fièvre diminue, ou les transpirations nocturnes ont diminué, la personne n'a plus d'asthénie, elle commence à prendre les poids. Très souvent, il pense qu'il est guéri, et à ce moment-là, il abandonne.
Lorsqu'on abandonne, on est en train de favoriser en effet la résistance. Ça, c'est un premier élément. Il y a les cas d'abandon. Mais notre point, c'est le fait que de temps en temps, n'est-ce pas, faudra nous dire, il y a un problème aussi d'approvisionnement en antituberculostatique. Parfois, nous sommes en rupture, un ou deux mois, il n'y a pas de médicaments, vous voyez. Et dans ces cas-là, ces gens-là, eux aussi, d'une certaine manière, ils sont exposés aux résistances.
Et enfin, le vaccin BCG est destiné à lutter contre la tuberculose. Et ce vaccin est-il accessible pour la majorité de Congolais aujourd'hui?
L'État congolais a fait des très gros efforts là-dessus. Et je crois que sur certaines choses, il faudra quand même dire merci, n'est-ce pas? C'est un vaccin qui est disponible dès la naissance. C'est le premier vaccin de notre calendrier pédiatrique ici, en République démocratique du Congo. Lorsque l'enfant naît, il est conseillé qu'il reçoive le vaccin BCG en 48 heures, n'est-ce pas? Et l'État congolais a disponibilisé, notamment avec la zone de santé chez nous ici à Beni, la zone de santé fait de son mieux pour que toutes les entités puissent être approvisionnés en intra. S'ils n'arrivent pas, ils envoient même des gens pour venir vérifier dans les maternités, en fait donner cela et gratuitement. Donc le vaccin est vraiment disponible.
Nous remercions le docteur Mutaza Lusungu Baba pour ce témoignage.
Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage.
Entrons maintenant dans l'univers d'un malade. Moïse Kambalé est un jeune d'une trentaine d'années. Il est atteint d'une tuberculose pulmonaire. Il y a environ 2 ans, il a découvert qu'il était malade après avoir constaté qu'il était victime d'une toux persistante. L'examen de ses crachats a effectivement révélé qu'il était malade. Désormais, sous traitement, il a appris à vivre avec cette maladie. Voici son histoire.
Je m'appelle Moïse Kambalé, je vis en République démocratique du Congo, province Nord Kivu, ville de Beni. Il était un jour, j'ai attrapé une toux qui a été plus ou moins chronique et qui avait duré 14 à 15 jours. Finalement, la fièvre est venue et j'ai augmenté un peu de température. J'ai aussi commencé à manquer également l'appétit. Et finalement, je me suis dit non, je dois aller voir le médecin traitant. C'est comme ça, après cet examen médical, que j'ai eu à recevoir une nouvelle, malheureusement, que je souffre de la tuberculose.
Et comment se passe votre traitement? Que prenez-vous comme médicament et combien dépensez-vous pour les soins?
C'est très difficile d'abord de recevoir les traitements adéquats dans notre pays. Mais toutefois, je partais chaque jour aller voir le médecin traitant et j'ai fait 6 mois en train de recevoir les traitements et les médicaments et chaque matin, je devrais me retrouver à l'hôpital devant mon médecin traitant et tant soit peu, et quelles que soient également les réalités précaires de la vie que nous sommes en train de recourir, nous sommes en train de recouvrer notre santé petit à petit.
Est-ce que dans ces centres ici, vous êtes vraiment apte?
Bon, par rapport aux soins que je suis en train de bénéficier, tout au début, je n'étais plus apte dans mon travail, mais avec le temps, je suis quand même en train de me ressaisir. Voilà que vous me rencontrez dans le lieu des services et je suis en train de travailler.
Et quel conseil et quel message vous pouvez avoir à ceux qui ne sont pas malades? Comment doivent-ils faire pour aider ceux qui ne sont pas malades et éviter eux-mêmes d'attraper la maladie?
On dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, nous ne devons pas partager les mêmes gobelets, les mêmes assiettes. Et nous qui souffrons de cette maladie chronique, nous devons aussi afficher l'amour en d'autres pour ne pas les contaminer. Et comprendre d'abord que nous sommes souffrants de cette maladie et nous ne devons pas accepter que cette maladie soit propagée indirectement ou directement par tout le monde. C'est que nous devons être loin de ceux qui ne sont pas encore atteints de cette maladie. Ceux qui ne sont pas atteints de cette maladie, nous leur conseillons également de chaque fois laisser leurs fenêtres ouvertes. C'est aussi un autre conseil que nous pouvons dire aux gens qui ne sont pas encore atteints de la tuberculose.
Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que cette tuberculose vous a fait perdre carrément espoir dans la vie?
Pas tout à fait. Nous n'avons pas encore perdu l'espoir parce que nous sommes en train de recouvrir petit à petit la force, notre santé. Et nous ne devons pas dire que carrément nous avons perdu l'espoir. Donc un tuberculé, c'est tout simplement une personne comme une autre. Elle doit être considérée évidemment comme un être humain. C'est que je suis là, je suis en train de vivre avec les autres, mais je dois être conséquent pour ne pas accepter que je puisse partager cette maladie aux autres qui ne sont pas encore atteints. Mais ce n'est pas à dire que nous avons perdu l'espoir. L'espoir est encore là et nous pensons que dès lors que nous nous retournons dans les lieux de service, nous sommes en train de nous retrouver petit à petit et donc l'espoir est là, nous ne l'avons pas encore perdu.
Les patients de tuberculose sont des personnes souvent affaiblies et isolées qui n'ont plus l'occasion de travailler pour subvenir à leurs besoins. Plus grave encore, lorsqu'ils sont jeunes et vivent dans un contexte de pauvreté, ils peuvent devenir un fardeau pour la société. Un centre d'encadrement et de professionnalisation des jeunes a eu l'idée de récupérer et de former ces jeunes. Kaindo Kolongo Piero est le président de ce centre. Il nous a raconté ce qu'ils font pour aider les jeunes tuberculeux.
Avant 2003, nous avions d'abord fondé ce que nous appelons un atelier surnommé Stop du Bois. Vu que ça fonctionnait d'une façon privée, et j'avais vu utile de le mettre au service du public, que nous appelons Centre d'encadrement et professionnalisation des jeunes. Nous avons la menuiserie, nous avons la coupe couture pour encadrer les filles et mères abandonnées. Nous avions aussi la mécanique automobile et la maçonnerie et coiffure. Et dans ces cinq domaines-là, nous avions vu utile d'encadrer nos jeunes dans la professionnalisation des jeunes et surtout dans la prise en charge du contrôle sanitaire, puisque lorsqu'on est dans un centre, on peut mieux se contrôler et avoir des formations sur ce plan sanitaire. Ça a beaucoup de peine.
Vous encadrez ces jeunes. Est-ce que parmi eux, ils parviennent aussi à faire des travaux comme tous les autres qui ne sont pas victimes de cette maladie?
Tout au début, il y a ce que nous appelons la stigmatisation. Ici, quand ils étaient arrivés et nous les avions mis sous formation de se reconnaître comme toute autre personne, que la maladie ce n'est pas la fin et que s'ils parvenaient à mettre en pratique toutes les théories, tous les conseils prodigués par nos agents sanitaires, ils doivent vivre comme tout le monde et faire le travail et bénéficier de tous les avantages que les autres personnes peuvent bénéficier.
Alors, qu'est-ce qu'il vous faut exactement pour améliorer la qualité du travail que vous offrez ici?
Ici, nous éprouvons beaucoup de difficultés, surtout des spécialistes que nous appelons pour venir nous donner de la formation. Tous les professionnels là nous demandent surtout les fonds que nous n'avons pas, puisque nous existons suite à l'auto-fonctionnement. Donc les meubles que nous vendons, c'est ces mêmes meubles que nous aident à acheter les autres matériels qui laissent que nous payons toutes les charges. Donc nous éprouvons beaucoup de difficultés puisque nous avons seulement la menuiserie et faute de moyens, laissent que nous restons avec ces mêmes domaines. Alors si nous trouvons les moyens, nous pouvons activer les domaines, par exemple la coupe couture, qui encadre les femmes vulnérables, sa soutenance dans cette ville et nos aînés, déjà les orphelins, les nécessités surtout de ces domaines, la tuberculose. En tout cas, si nous trouvons un bailleur de fonds qui devrait nous aider à activer le domaine de coupe couture, en tout cas, cette catégorie de femmes ou filles serait aussi encadrée comme les garçons que vous voyez devant votre caméra.
Enfin, quels sont vos projets à long et à court terme?
En tout cas, le projet, c'est activer la coupe couture, activer la coiffure et la mécanique pour ne fût-ce qu'encadrer un bon nombre de jeunes qui, par défaut, n'arrivent pas à terminer leur cycle scolaire, surtout que les moyens ou l'économie qui se baisse dans notre République, ces bailleurs-là seraient le bienvenu, puisque tous les jeunes ne sont pas, en tout cas, légibles dans la menuiserie, aimeriez faire la mécanique et la coiffure ou autre domaine que ça.
Nous remercions Moïse Kambalé et Kaindo Kolongo Piero qui étaient au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. La question de la semaine nous vient de la RDC et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur, je suis Dudo Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida, peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer?
Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement, à savoir que le dépistage doit aussi être précoce. Chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. L'auditeur voudrait aussi savoir s'il y a des soins particuliers que ces enfants doivent bénéficier afin qu'ils grandissent avec une santé de fer. Il faut dans un premier temps savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière. À côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soit pas victime de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Et dans ce soutien psychologique, il faut vraiment un soutien nutritionnel. C'est des enfants qui doivent avoir une alimentation équilibrée associée à une très très bonne hydratation. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient qui est très appréciable. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions que posait l'auditeur depuis la RDC.
Et puis n'oubliez pas, si vous avez des questions, des observations ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, vous pouvez regarder la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook et sur le site web de VOA Afrique, www.voafrique.com, et sur le réseau de nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la tuberculose, une maladie très mortelle qui est présente chez au moins 35% des séropositifs. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Moutaza Lusungu Baba. Il est médecin généraliste et praticien à la clinique imagerie du Grand Lac de Beni en République démocratique du Congo. Il nous a expliqué comment éviter la maladie et pourquoi elle est présente chez les nombreux séropositifs. Nous avons aussi écouté Moïse Kambalé, un malade de tuberculose. Il nous a parlé de son traitement. Et enfin, Kaindo Kolongo Piero, président d'un centre d'encadrement et de professionnalisation des jeunes de Beni en RDC, nous a raconté ce que fait le centre pour former et récupérer les jeunes atteints de tuberculose. Et comme toujours, notre consultant, le docteur Amanginkap, a répondu aux questions des auditeurs. À tous, nous disons merci.
Nous remercions également Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui nous ont aidés à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Michel Joseph et de Aiden Utko qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais avec
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé. Car
votre santé, c'est votre avenir.
À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.